Encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Me freedom.
It's right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm dreaming. This ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm out trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the safest thing. None of the wasted.
home, my home. Like the first man, I was cut so deep by his knife. When I awoke from my sleep, I was cut so
maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
J'ai envie de parler un petit peu de la frustration. Dans le monde, il peut y avoir des frustrés. Mais il peut aussi y en avoir dans l'Église. Nous pouvons, et nous sommes, soyons honnêtes, hein, nous avons une multitude d'occasions d'être frustrés, d'être amers. Et l'amertume est quelque chose qui empoisonne. La Bible parle de racines d'amertume. Mais l'amertume, et c'est exactement cette notion de racine, est très très intéressante parce que, par définition, une racine, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, on peut l'ignorer, on peut peut-être même ne pas savoir qu'elle est là. Le problème, c'est qu'elle y est et qu'elle produit des effets. Et que souvent, il y a évidemment un temps de la racine au fruit, il y a un délai. Et puis le fruit, il faut aussi qu'il mette longtemps avant de se former. Mais alors quand un fruit d'amertume est formé, alors là, il est vraiment amer. Hein? C'est comme si vous essayiez de manger un pamplemousse en commençant par l'écorce, voyez? Et cette odeur d'amertume nous reste après. L'apôtre Pierre a eu quelques problèmes avec ça. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'apôtre Pierre vis-à-vis de ça dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire d'abord dans Matthieu 14. C'est au moment où Jésus a rejoint les disciples dans la barque en marchant sur l'eau. Et puis Pierre lui-même est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. On lit simplement verset 14-29. Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et je me mets un petit peu à la place de Pierre, surtout quand il marche, pas tellement quand il s'enfonce. Et j'imagine comment Pierre a dû recevoir cette parole de Jésus. Même si, à mon avis, je crois que Jésus l'a dit avec beaucoup de gentillesse. Même s'il y a comme un petit reproche, mais c'est plutôt une exhortation. Il aurait pu encore faire mieux, voyez ? Il a fait, semble-t-il, j'allais dire, un bel effort. Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Jésus lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et même après, Pierre, il veut dire quand même, je fais des trucs, je me décarcasse, je fonce et tout. C'est pour encore m'entendre dire que j'ai une petite foi. Ça ne va pas. Hein. Au chapitre suivant, chapitre 15, verset 14, Jésus donne une espèce de toute petite parabole. Il dit « Laissez-les, parlant des pharisiens, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Et évidemment, si un aveugle conduit un aveugle, eh bien, ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Là, il a regretté d'avoir perdu une occasion de se taire. Hein? Enfin, il n'a pas compris, il pose une question. Et ce n'est pas que Jésus l'ait dit avec agressivité, mais voyez, Jésus devait faire constamment un effort pour se mettre au niveau de ses disciples. Et quelquefois, pour lui, c'était une surprise qui se répétait de voir à la fois leur incapacité à comprendre, leur incapacité à accepter, leur incapacité à rentrer dans le spirituel. Et Jésus ne dit pas « Êtes-vous sans intelligence ?» Il ne leur a pas dit « Oh, mais vous êtes bêtes ou quoi ?» Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire « Comment se fait-il que votre intelligence n'entre pas, ne connecte pas, ne se mette pas au niveau, au diapason, ne soit pas en harmonie avec ce que je vous explique ?» Pierre encaisse encore un coup. Après, vous avez au chapitre 16, Jésus discute avec les disciples et au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Parce que Pierre venait de déclarer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au verset 21, Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se met à reprendre Jésus et lui dire « Mais non, ça ne va pas se passer comme ça, alors là, que Dieu nous garde de ça, Seigneur !» Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, ici, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour Pierre. Parce que, dans un premier temps, tout ça, c'est quasiment la même conversation. Dans un premier temps, il a reconnu que Jésus est le Christ. Hein, et après cela, Jésus a commencé à leur exposer son plan. Il dit, il faut qu'il meure. Hein. Et Pierre, qui vivait avec Jésus dans une relation vraiment d'amitié, qui aimait Jésus, il était blessé, il était peiné de penser que Jésus pourrait, comme lui le comprenait, échouer, et puis qu'il souffre, qu'il soit mis à mort, etc. C'est atroce, remarquez, c'est normal. Imaginez que vous pensiez à un de vos amis, que vous pensez, et qu'on suppose qu'ils doivent souffrir de la sorte. Évidemment, on voudrait tout faire pour l'empêcher. Alors Pierre a pris à part Jésus, et puis il lui dit, ah non, non, et il a pris Dieu à témoin que Dieu évite cela. À Dieu ne plaise, ça n'arrive pas. Mais Jésus était constamment dans ce qu'on appelle le combat spirituel, pas d'une façon mystique, dans des stratosphères, là, mais dans la réalité, dans le concret, dans le vécu. Et Jésus a discerné qu'à travers ce que Pierre lui disait, l'adversaire était en train, le diable était en train d'essayer de le dissuader d'aller sur le chemin de la croix. Il a compris que c'est pas seulement Pierre qui est en train de le dire par sa bonne volonté, mais que derrière ça, le diable agit. Vous voyez, même si Jésus a dit « arrière de moi, Satan », en parlant à Pierre, il n'a pas qualifié Pierre de Satan, vous comprenez bien. Ce verset ne veut pas dire du tout qu'il y aurait eu dans Pierre, qu'il y aurait eu un diable, qu'il y aurait eu un démon en lui, ce n'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est que parce que Pierre n'a pas compris, parce que Pierre n'est pas rentré dans le plan de Dieu, le diable a trouvé le moyen d'exercer sur lui une influence et d'utiliser ses paroles. Le diable se véhicule dans les paroles que Pierre est en train de dire. Et c'est ça que Jésus discerne à travers ça. Donc ce n'est pas directement à Pierre que Jésus s'oppose en disant « arrière de moi ». C'est au diable, du reste, il dit « arrière de moi, Satan ». Mais après, il explique à Pierre, il lui dit « tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Les hommes pensent que le Fils de l'homme, le Messie, doit être vainqueur. Les hommes pensent qu'il ne doit pas souffrir. Les hommes pensent que c'est un scandale, que c'est pas juste, c'est pas normal qu'il meure. Mais c'est pas le plan de Dieu. » Pierre devait être vraiment d'abord déconcerté. Là, il savait plus bien où il en était, il savait plus quoi penser. Devant ses petits camarades, il y a un côté humiliant, parce que les autres sont là aussi. Et puis avec Jésus, du coup, il est dans un trouble. C'est un ami, mais c'est un ami qui ne veut pas qu'on l'aide à ne pas souffrir. C'est difficile à comprendre. Et tout ça crée en lui quelque chose qui tourne et qui est un peu difficile. Après, au chapitre 18, c'est peut-être un peu moins net, ne cherchez pas, mais vous savez, Pierre a dit à Jésus, pardonnerai-je à mon frère jusqu'à 7 fois. Mais Jésus dit, non, 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 Pierre, non, pas 7 fois. Là, dans un premier temps, il était rassuré. Hein, il s'est dit, bon, on va peut-être dire 3, je ne sais pas. Jésus dit 70 fois 7. Et encore une fois, pour Pierre, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. Là, c'est plutôt sa compréhension qui est mise en défaut. Bon, mais passons rapidement. Au chapitre 19, au verset 27, on voit mieux son désarroi. Jésus a parlé des richesses. Il dit que ce n'est pas possible de rentrer dans le royaume de Dieu si on est encombré de richesses, comme un chameau qui devrait passer par le trou d'une aiguille. Jésus a dit ensuite que c'était tellement difficile, les disciples commençaient à avoir peur. À la fin, mais finalement, qui c'est qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit, aux hommes c'est impossible, hein, mais à Dieu tout est possible. Alors au verset 27, Pierre prenant alors la parole dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Là encore, on voit son inquiétude, son trouble, son embarras. Parce que on ne mesure pas toujours à quel point ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus se sont réellement engagés. Ils ont quitté leur village, ça veut dire qu'ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur outil de travail, ils ont laissé leur situation, ils ont laissé leur notoriété, ils ont laissé leur place sociale, ils ont laissé leur réputation, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur réputation. Pour beaucoup, ils sont maintenant jugés, ils sont regardés comme des farfelus, tu sais, le gars de la bande à Jésus, là. Ils sont regardés un peu comme des hérétiques en plus, etc. Et puis ils se disent maintenant, en écoutant Jésus, ils disent mais au fond, est-ce qu'on a bien fait? Ça sert à quoi? J'ai l'impression que d'après ce qu'il dit, de toute façon, qui peut être sauvé? On a tout quitté, est-ce que ça sert à quelque chose? Un peu plus loin, au chapitre 26, verset 50, on est au moment de l'arrestation de Jésus. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et la fin du verset 56 dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ce qui est plus intéressant, c'est que, et ça peut-être qu'aussi ça mérite d'être souligné par rapport à Pierre, puisque c'est Pierre, hein, on sait que c'est lui hein, là, qui a sorti son épée. Quand ils étaient encore dans la prière le soir, pendant le dernier repas, Jésus avait parlé d'épée et deux des disciples ont dit « Ouais, ben nous on en a des épées, on a pris deux épées avec nous. Hein. » Alors, Pierre tire son épée parce que c'est son caractère, c'est un impulsif. Il n'a pas réfléchi deux minutes, il a dit « Bon, ben c'est le moment. » Et il se jette dans le tas, quoi, dans la mêlée. Il leur fonce dedans, il a sorti son épée, il y va. Et il a coupé l'oreille, même emporté. En tout cas, il a coupé l'oreille du serviteur du grand sacrificateur, c'est-à-dire tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus. Et croyez-moi, s'il lui a coupé l'oreille, ce n'est pas parce qu'il visait l'oreille. Hein? S'il avait pu, l'autre, c'était grave pour lui. Hein? Mais il a eu la bonne idée d'esquiver et finalement, il lui a attrapé que l'oreille. Mais ça veut dire que Pierre, là, à ce moment-là, Pierre était réellement en train de donner sa vie pour Jésus. Pierre est en train de mettre sa vie sur l'autel pour Jésus. Si ce n'est pas Jésus qui avait apporté une suite d'interventions miraculeuses pour le sauver là dans le jardin, Pierre ne serait même pas sorti vivant de cet épisode. Je ne pense pas que les Romains l'auraient même pas laissé sortir vivant de ce jardin. Ils l'auraient exécuté, ils l'auraient massacré là sur place parce qu'il les a agressés. C'est quand même des gens qui arrivent avec un mandat. Ce sont des officiels. Et Pierre les agresse par la force, par la violence. Ils étaient même en droit, j'allais dire, même au sens juridique du terme, ils étaient eux maintenant en légitime défense. En tout cas, au moins, ils l'auraient attrapé, ligoté et ils l'auraient exécuté le lendemain pour agression sur les forces de l'ordre. Pierre est en train d'offrir, à ce moment-là, il offre sa vie à Jésus. Mais Jésus n'a pas pris son cadeau. Jésus dit non, je ne veux pas que tu me défendes. Et il a même guéri l'homme qui avait été blessé. Et Jésus a ensuite pris autorité pour que ses disciples puissent sortir du jardin. Il a dit, si c'est moi que vous arrêtez, ceux-là vous les laissez filer. Et miraculeusement, on les a laissés partir. Alors ils sont partis et ils se sont enfuis, ils l'ont abandonné. Mais pour Pierre, ça je pense que c'est quelque chose de très difficile. D'un certain côté, on peut dire qu'il a sauvé sa peau. Ça veut dire qu'il a voulu faire quelque chose de grand, de profond. Il a voulu offrir sa vie pour son ami, il a voulu le défendre et son ami n'a pas voulu. Et Pierre, je pense là, il y a quelque chose d'amer qui remplit son cœur. Comment comprendre ce Jésus pour qui on ne peut rien faire, à qui on ne peut rien donner? Et puis vous connaissez encore un épisode un peu plus loin. Lorsque, toujours dans le même chapitre, hein, au verset 69, hein, pendant qu'on était en train de juger Jésus, le fameux procès truqué. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Et une servante s'approche de lui et lui dit, mais t'es pas avec Jésus, le Galiléen ? Mais lui, il a nié devant tous. Il dit, hein ? Mais de quoi tu me parles ? Je sais pas. Et il se dirigeait vers la porte. Mais une autre servante le voit et dit à ceux qui se trouvent, dites les gars, celui-là, moi je le connais. Il était aussi avec Jésus de Nazareth. Alors il a commencé à nier avec serment. Il a dit, mais non, je vous jure, je connais pas ce type, j'en sais rien moi. Et peu après, ceux qui étaient là s'approchent et disent à Pierre, mais bien sûr, toi aussi tu fais partie de la bande à Jésus là. Ouais, on te reconnaît bien. Alors il se met à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Des imprécations, ça veut dire je le jure sur la tête de ma mère, voyez, ou je sais pas ce qu'il disait à ce moment-là. C'est grave, hein. Le texte est très sobre, mais dans l'expression, c'est grave. Et aussitôt, quand il a eu fini, c'était trois fois qu'il reniait Jésus, alors on a entendu le coq chanter, le jour arrivait. Et Jésus avait dit à Pierre, cette nuit, là, aujourd'hui, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre avait dit, ah non, ça jamais. Maintenant, c'était fait. Et le coq chante. Immédiatement, alors son esprit lui est revenu, il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Et étant sorti, il pleura amèrement. Là encore, c'est un miracle. Étant sorti, tout le monde l'avait reconnu. Tout le monde voulait l'arrêter. Il est dans une cour fermée, il y a quelqu'un qui garde la porte. Comment ça se fait qu'ils l'ont laissé sortir ? Mais Jésus avait dit, j'ai prié pour vous. C'est Jésus qui a pris encore autorité. C'est encore Jésus attaché dans l'autre coin de la même cour. C'est encore Jésus qui est intervenu pour que Pierre puisse sortir. Mais est-ce que vous avez remarqué l'adverbe ? On dit, étant sorti, il pleura amèrement. Parce que je crois que Pierre avait accumulé beaucoup d'amertume. Les circonstances l'ont aidé à accumuler de l'amertume. Son incompréhension du plan de Dieu l'a aidé à accumuler de l'amertume. Ses fautes de caractère l'ont aidé à accumuler de l'amertume. Son refus d'entendre et de comprendre les paroles de Dieu, son orgueil l'ont aidé à être rempli d'amertume. Et maintenant, il est amer envers lui-même. Maintenant, il est amer parce qu'il le reconnaît. Tout d'un coup, il se découvre tel qu'il est. Vous voyez, l'image de lui-même qu'il s'était fabriqué, derrière laquelle il s'était caché, le personnage Pierre qu'il croyait être et qu'il essayait de projeter vers les autres, là, en un instant, ce personnage s'est écroulé. Et maintenant, pour la première fois, Pierre se retrouve face à lui-même. Et il se rend compte maintenant qu'il est un pauvre type. Il se rend compte qu'il est capable de renier son meilleur ami. Il se rend compte qu'il est capable d'être lâche pour sauver sa peau. Il se rend compte qu'il est capable de mentir. Il se rend compte qu'il n'est pas le personnage courageux, prêt à aller jusqu'au bout, un héros. Il se rend compte qu'il est quelqu'un d'ordinaire, qu'il est quelqu'un qui peut faire le pire. Jésus, c'est tout pour lui. Depuis des années, c'est tout pour lui. Il l'aime. Et tout d'un coup, et vous savez, quand Pierre a dit toutes ces choses, toutes ces imprécations, c'était aux oreilles de Jésus lui-même. Jésus l'a entendu dire. Ils étaient dans la même petite cour. Jésus était attaché dans un coin et Pierre était à côté du feu, peut-être à 10 mètres. Et quand un autre évangile dit que quand Pierre a eu fini, alors Jésus l'a regardé. Et là, leurs regards se sont croisés comme ça. Vous imaginez ce qui s'est passé à ce moment-là dans son cœur, quand vous venez de dire quasiment face à face de quelqu'un qui est votre meilleur ami, que vous n'en avez rien à foutre. Alors là, Pierre est sorti, mais il a pleuré et son amertume a commencé à sortir. Et voyez, j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, nous avons tous eu des tas d'occasions d'avoir de l'amertume, pas toujours par notre faute, parce que la vie est difficile. Parce que le monde est dur, parce que ceux qui nous entourent ne sont pas toujours ce qu'on voudrait, et nous avons tous eu une multitude d'occasions d'être déçus. Tout le monde nous déçoit. Et Dieu a été aussi déçu. Tiens, on peut lire Ésaïe 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il a ôté les pierres et il y a mis un bon plan. Il a bâti une tour au milieu, il a creusé aussi une cuve et il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, alors que j'ai espéré qu'elle produirait des bons fruits, des bons raisins, pourquoi est-ce qu'elle en a produit des mauvais? Et au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Dieu avait espéré de la droiture. Et voilà, c'est du sang versé. Il avait espéré de la justice et c'est des cris de détresse. Rien que dans ce petit chapitre, on voit que trois fois, Dieu a espéré quelque chose qui n'est pas arrivé. Dieu a été frustré dans son attente. Dieu a été déçu dans son espérance. Mais comment Dieu a réagi? Alors, il a réagi en appliquant les corrections qui étaient nécessaires. Mais vous remarquez qu'il n'a pas pour autant coupé avec Israël. Il ne l'a pas rejeté, ça n'a pas été fini définitivement. Il a fait ce qu'il devait faire pour le faire changer. Mais plus tard, il l'a retrouvé et il l'a rechangé. Comment réagissons-nous quand nous avons été déçus, quand nous sommes rendus amers? Combien de fois Jésus a été déçu? Et un jour, il a dit aux disciples, « Jusqu'à quand je serai avec vous? Mais combien de temps il faudra que je vous supporte ?» Mais pourtant, il a continué de les aimer. Jésus voyait que les gens l'abandonnaient. Il voyait qu'il n'était pas compris. Il voyait que même ceux qui le suivaient, souvent, c'était par pur intérêt. Dans un passage, on dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Il n'avait pas confiance parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais pourtant, Jésus a réagi, non pas en fonction de ça, mais il a réagi dans l'esprit opposé. Et ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'il nous faut faire bien attention à ne jamais laisser quelque chose d'amer demeurer dans notre cœur. Et ne gardez pas d'amertume contre vous-même. Faites-le sortir de vous-même. N'acceptez pas de vous en vouloir à vous-même. S'il y a quelque chose où il faut demander pardon à Dieu, eh bien, on demande pardon. Mais on croit, c'est ça la foi. On croit que quand on a demandé pardon de quelque chose qu'on a mal fait, eh bien, on croit que Dieu nous a pardonné. Et si ensuite, on continue de se sentir coupable, il ne faut pas redemander pardon. Il faut prendre autorité contre le sentiment de culpabilité. Il faut dire, non, j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé qu'il me débarrasse de cette faute. Et le sang de Jésus est en moi pour me libérer et pour me laver. Je crois au pardon de Dieu. Donc je ne suis plus coupable. Donc je suis libre. Donc si je me sens coupable maintenant, ce sentiment est un mensonge. Et je chasse ce sentiment, tu sors de moi. Luttez contre les racines d'amertume. N'acceptez pas d'être amer envers quelqu'un. Vous avez des gens autour de vous qui vous ont blessé. C'est peut-être votre mari, votre femme. Les gens qui peuvent nous rendre le plus amers, c'est les gens qui nous sont les plus proches. Parce que c'est eux qui ont véritablement un accès à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si quelqu'un dans la rue qu'on n'a jamais vu, dans la vue sur un trottoir, un inconnu dit « Dis donc, t'as l'air moche !» Eh bien, on dit « Il est qui ce type ? Il est fou, on s'en fout !» Mais si c'est à l'intérieur de la maison, si c'est ton mari, quand tu t'apprêtes à partir, tu t'es bien pomponné, tu te regardes, il dit « Ça ne te va pas du tout ce truc, hein ? Ça a été coupé dans un sac ?» Là, c'est dur. Alors là, les racines poussent, dépêchent d'essayer de trouver de la place au fond. Il nous faut savoir que nous avons déçu les autres pour bien comprendre pourquoi les autres nous ont déçus, parce qu'ils sont comme nous. Mais il faut demander vraiment à Dieu d'avoir une détermination. Et ça, vous savez, ce n'est pas simplement le truc de dire un jour, je vais prendre une décision, puis je vais me sortir de ça. D'accord, il faut prendre cette décision. Mais c'est surtout la décision ensuite de traiter le problème continuellement au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois, on lève la main, ok. Non, ça c'est un travail, ça fait partie du travail. quotidien pour lutter contre l'amertume. Demandez au Seigneur qui vous aide. S'il y a quelque chose des fois qui vous revient, vous repensez à quelque chose, quelqu'un vous parle d'une situation et ça vous revient, vous sentez qu'il y a un sentiment tout d'un coup, alors que 5 minutes avant vous étiez content, joyeux, tout d'un coup vous sentez plus joyeux, vous avez l'impression, attention, ça doit faire allumer une petite lumière rouge. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, et des fois c'est parce qu'on ressent, on se remet dans un état d'esprit où on avait été blessé. Et si on traite ces choses constamment au fur et à mesure, alors si on les traite au fur et à mesure, on ne leur laisse pas prendre de la place. Mais si vous leur laissez prendre de la place, plus tard, l'amertume est là, mais à la limite, vous ne savez même plus quand et comment elle a commencé à se développer. Et c'est plus difficile à régler. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est toujours possible. Si aujourd'hui je disais quels sont ceux d'entre vous qui se sentent blessés, mais peut-être qu'il y aurait autant de mains qu'il y aurait de personnes ici. Mais ce n'est pas le tout de dire j'ai été blessé. On a été blessé, d'accord, mais Dieu a été blessé aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi dans l'esprit opposé. Il a décidé de ne pas rester dans cet état-là. Et c'est notre responsabilité aussi. On pense souvent, quand on parle de foi, on pense souvent au miracle, au prodige, à la guérison, et c'est juste. Mais ce n'est pas uniquement ce domaine. Croire pour soi-même, au-dedans de soi, que Dieu nous a pardonné, c'est la foi aussi. Et quelquefois, ça exige une grosse énergie de foi. Croire que Dieu peut rétablir des relations, des fois, ça exige aussi des grandes quantités de foi. Et Dieu va nous aider à trouver la source. Je voudrais simplement vous inviter à dire, Seigneur, je ne voudrais pas ne pas être lucide avec moi-même. Je ne veux pas me faire des illusions avec ce qui se passe au-dedans de moi. Je veux être conscient de ce qu'il y a en moi-même. Aide-moi, Seigneur, à me rendre compte. Si j'entretiens quoi que ce soit d'aigrin contre quelqu'un, c'est vers les plus proches. C'est des parents, par exemple, qui avaient tellement pensé que leur enfant, leur fils, leur fille deviendrait ceci, cela. Alors ils se sont investis pour qu'ils deviennent, pour moi, ingénieur ou je ne sais pas quoi. Et puis, après, le fiston a fait 1 ou 2 d'études. Et puis, au bout de 2 ans, il dit, tu sais, papa, moi, ce que j'aime, c'est le dessin, la musique. Je vais faire les beaux-arts. Alors les parents, ils disent, on s'est saigné aux 4 veines pour qu'il devienne vraiment, qu'il ait vraiment quelque chose. Et le voilà parti à faire des gribouillages. Alors, ils ont l'impression d'avoir été trahis dans leur attente. Et puis, dans les foyers, on a des causes d'amertume. Et puis, dans le travail, vous avez des gens, ils se sont donnés dans leur travail. Quelqu'un de ma famille, là, a trouvé un travail et le patron lui a fait des éloges, parce que c'est un truc de vente. Alors évidemment, les managers qui ont compris le truc, quand vous travaillez dans la vente, ils vous font toujours des compliments, parce qu'ils savent que c'est une bonne manière de vous motiver. Et puis d'un jour à l'autre, tout d'un coup, ils vous disent d'un seul coup que tout votre travail est nul, et alors là, vous savez que demain, vous êtes renvoyé. Et ça rend amer, parce que tout d'un coup, on comprend qu'en réalité, on a été manipulé. On était juste un pion qu'on essayait de faire produire le plus possible. On se dit, ben, si j'avais su, tiens, je me suis décarcassé comme ça, ben, si j'avais su, j'aurais été cool. Hein? Alors on a de l'amertume. Et il ne faut pas garder ça. Souvent, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on dit, bon, allez, je ne veux plus y penser. Mais ce n'est pas suffisant de ne pas y penser. Parce que si la racine est rentrée, elle y est. Donc il ne suffit pas de dire, je ne veux plus y penser. Il faut dire, il faut que je la coupe. Il faut que je l'arrache. Il faut que je l'enlève. Et il faut que tu l'apportes au Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu vois, dans mon identité, je me suis senti dévalorisé, je me suis senti trahi, j'ai senti qu'on avait profité de moi. Ben Seigneur, toi, tu as été trompé aussi par les hommes. On a eu de l'intérêt avec toi. Je te demande, Seigneur, de me débarrasser de ça. Je veux être libre de ça. Je veux prier pour ces gens et prie pour eux. Il faut constamment prier pour les gens qui nous ont blessés. C'est une des meilleures méthodes. Prier jusqu'à ce qu'on puisse savoir qu'on les bénit à 100%. J'ai entendu une fois un pasteur c'était plutôt un évangéliste, qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'ensemble du corps pastoral. Si bien que pendant un moment, il avait pris un comportement très marginal. Il fonctionnait tout seul. Et puis quand même, après quelques années, un jour, il était de retour pour la première fois dans une pastorale au milieu de ses collègues. Alors tout le monde le regardait avec un peu d'intérêt. On lui a demandé s'il y avait quelque chose à dire. Il a dit, écoutez mes frères, je vais vous dire, franchement, je vous en ai vraiment beaucoup voulu. Mais un jour, j'ai décidé que j'allais prier pour chacun d'entre vous. Alors j'ai fait une liste et j'ai commencé à prier pour vous, jusqu'à ce que je puisse chacun le bénir à 100%, savoir que je le bénis à 100%, que je le souhaite de la bénédiction dans tous les domaines. Et il dit, pour la plupart, j'y suis arrivé. Mais il a dit, bien honnêtement, pour quelques-uns, je travaille encore. Mais c'est honnête. Mais il a affronté son problème. Affronte le tien. Regarde la réalité. La Bible dit, ne laissons pas des racines d'amertume produire un mauvais fruit qui infectera encore ensuite les autres, qui va infester l'Église, qui va détruire nos relations et qui va nous empêcher d'être des adorateurs. Vous ne pouvez pas être amer et adorateur, ce n'est pas possible. Il y en a qui disent, quand il y a des moments vraiment d'adoration puissants, à la fin, le pasteur monte sur l'estrade et dit, frères et sœurs, on a passé un moment vraiment extraordinaire. Vraiment, le Seigneur était là. Peut-être encore, il est tout ému. Et puis l'autre, il est au milieu, il dit, moi, j'ai rien senti. Alors, quand il y a des moments d'adoration, il regarde autour de lui, il voit les autres qui sont là, ils sont au ciel. Lui, il regarde. Tu sais pourquoi tu as du mal à adorer? Parce qu'on ne peut pas adorer et être amer en même temps. Ce n'est pas possible. Débarrasse-toi, libère-toi, et le Seigneur va t'aider.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM, au-delà de la musique. Écoutez.
I'm the child of a loving father. I'm a part of the family. His mercy is sweet like summer. And he's always welcoming. So if you feel like you're going under, come and fall on amazing grace. He's a God who can walk on water, and his love can change. Somebody like me, somebody like you. You come as you are and you leave brand new. If you're feeling broken, running out of hope, then just look how his love set free. Somebody like me.
Thank you. What I hear when you don't De l'amour.
Si vous vivez avec un conjoint qui profère des injures, il vous faut une stratégie de repli qu'il faudra partager avec lui. Essayez ceci. Je veux te partager une décision que j'ai prise. Je t'ai dit par le passé à quel point j'étais blessé quand tu t'en prends à moi avec des critiques cinglantes. Il me faut des jours et parfois des semaines pour passer par-dessus tes mots et calmer ma douleur. J'ai décidé que la prochaine fois que tu perds ton sang-froid, j'irai passer quelque temps loin de toi pour guérir. Je pense que je guérirai plus vite si nous ne sommes pas ensemble. Je ne t'abandonne pas, mais je veux réajuster notre relation qui était devenue un modèle destructeur. Je ne survivrai pas indéfiniment à tes attaques verbales. Je ne veux pas croire que c'est la personne que tu désires être. Je te partage ces choses parce que je crois en toi et désire que tu deviennes la personne que tu veux être. Il se peut qu'il se fâche ou qu'il se mette à pleurer. Il faudra qu'elle suive simplement ce plan. La prochaine fois qu'il explose, elle communique clairement ceci. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Elle a agi de façon positive.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM. Phare FM, la radio autrement.
Always something trying to steal my mood. My crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings a bigger picture into view. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every morning, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. Hey. You give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. And you grow the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. No, like you love me. Light up everything that you would choose to set your eyes on me.
It blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time.
Down one time, break it down two times. Hey, listen up.
Why should I worry? Why should I care? 'Cause nobody loves me, no. Like you love me. Why should I worry? No. Why should I care? Every second thought.